Donc pendant l'été, on continue à parcourir le prophète Ésaïe, et comme on l'a déjà fait depuis 3 dimanches, on fait 2 chapitres à la fois. Ce n'est pas parce que je voulais aller plus vite, mais c'est parce que chaque fois, ça fait une unité. On peut pas, et ce serait dommage de lire un chapitre sans l'autre, parce que ça forme un tout, hein. Vous savez, comme moi, que les chapitres de la Bible n'étaient pas dans le texte d'origine, on les a ajoutés plus tard, pour la bonne raison que ça nous aide à nous retrouver. Si je dis Ésaïe chapitre 34, vous allez me retrouver. Mais si je vous dis déroulez votre rouleau jusqu'à à peu près le tiers, ce serait un petit peu plus difficile. Donc voilà. Mais c'était pas dans le texte d'origine. Alors, ces 2 chapitres vont ensemble pour une raison. On les appelle la petite apocalypse d'Ésaïe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments apocalyptiques, notamment le vocabulaire, qui ressemble à l'apocalypse, mais à d'autres textes, hein, de l'Ancien Testament, qu'on appelle apocalyptique. C'est un style, c'est un genre littéraire, où un vocabulaire très vigoureux est utilisé pour faire passer des choses qu'il ne faut pas forcément interpréter au pied de la lettre. Donc il faut les interpréter selon les règles du genre apocalyptique. Donc cette petite apocalypse d'Ésaïe comporte 2 chapitres très contrastés. Le chapitre 34, c'est la destinée des nations opposé à l'Éternel et à son peuple. Et notamment, on parle d'Édom, donc Édom, qui représente ces nations, même si la prophétie est plus large que cela. Et puis au chapitre 35, la destinée du peuple de Dieu. Donc deux destinées très différentes. Et je ne vais pas lire le texte biblique tout de suite. Donc, c'est un peu l'habitude, on lit le texte et puis on fait un commentaire. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je vais d'abord faire quelques commentaires, quelques explications du chapitre 34 et le lire après. Le chapitre 34 est un chapitre qui parle du jugement de Dieu. C'est un sujet un peu inconfortable. Nous ne pouvons pas le lire en restant à l'aise, en quelque sorte. Un sujet que l'on croit au jugement de Dieu, mais c'est un sujet qu'on n'aime pas tellement aborder, donc, dans le détail, pour différentes raisons. C'est vrai que nous avons beaucoup de questions à régler par rapport à notre relation avec le Seigneur sur la terre. On sait qu'il y aura le jugement, mais ce n'est pas facile. D'abord, ce n'est pas facile parce que il y a tellement de gens autour de nous qui se sont détournés de Dieu. On a l'impression que les foules en Europe sont perdues. Et c'est encore plus difficile quand on se dit, peut-être parmi nos proches, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens non plus. C'est un sujet difficile parce qu'on se dit, dans quelle mesure est-ce que c'est ma responsabilité d'évangéliser pour que ces personnes se tournent vers Dieu? Un sujet encore plus difficile dans l'ère du temps. Il faut être tolérant, accepter tout ce que les uns et les autres font. Alors, si ce texte parle du jugement des nations dans un premier temps, parce que c'est dans le genre apocalyptique, on voit bien que le texte s'applique au temps et au vécu du temps d'Ésaïe. Je ne vais pas tellement insister là-dessus parce que c'est ce qu'on voit depuis déjà 3 ou 4 semaines, mais aussi ouvre des perspectives sur l'avenir et la fin du monde. C'est le style apocalyptique comme dans l'Apocalypse. Comme j'ai dit, le vocabulaire de ce chapitre est vigoureux, apocalyptique, on va dire, Mais le sujet est tout à fait logique. Parce que si vous étiez là la semaine dernière, quel était le thème des chapitres 32 et 33 ? C'est que l'Éternel est roi. Et un roi doit intervenir pour mettre fin à la rébellion, parce qu'un roi doit régner. Donc il est tout à fait logique que les chapitres 34 et 35 viennent après les chapitres 32 et 33, hein, vous vous rappelez, début du chapitre 32, « Un roi régnera alors, conformément à la justice ». Et on a vu que le seul roi qui règne conformément à la justice, c'est le roi des rois, le Messie. Et au chapitre 33 d'ailleurs, il dit au verset 22, « En effet, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve ». Donc c'est logique que l'on parle du jugement après avoir établi que Dieu est roi. Mais Dieu est quand même patient. Dieu est patient. C'est un roi qui est lent à la colère. Donc je cite le verset qui revient 6 ou 7 fois dans l'Ancien Testament. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et donc, on retrouve la même pensée dans le Nouveau Testament, par exemple dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc, s'il y a jugement, il y a aussi patience. Et le Seigneur est lent à la colère. Vous savez que la colère, ce n'est pas quand on se fâche, mais la colère de Dieu, ce n'est pas qu'il se fâche, c'est son opposition obstinée et totale contre le mal. Donc il est lent à appliquer son jugement. Mais ce jugement est quand même une réalité. Et il va nommer, entre autres, Édom, comme étant le peuple représentatif, parce que dans l'Ancien Testament, Édom est le pays qui s'est opposé le plus systématiquement à Israël depuis la sortie de l'Égypte. Donc quand ils n'ont pas permis que Moïse amène le peuple à travers les terres d'Édom pour arriver plus rapidement à la terre promise, mais après ils sont toujours opposés au plan de Dieu. Mais ce jugement quand même dépasse Édom, c'est toutes les nations et tous les habitants de ces nations. Et vous allez lire le vocabulaire de ce chapitre 34, c'est pour ça que je parle d'abord avant de le lire, est extrêmement vigoureux, on pourrait dire même cru. Donc, ce serait, si c'était un film interdit ou moins de 12 ans, parce que le vocabulaire est tellement fort à certains moments, tellement explicite. Et tout ça pourquoi, le verset 8 que nous allons lire dit, c'est pour la cause de Sion. Donc, quand on dit pour la cause de Sion, il ne faut pas forcément y voir les conflits actuels au Moyen-Orient, ni le sionisme. Ce n'est pas dans ce sens-là. Sion, c'est Jérusalem. Jérusalem représente le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël, l'Église dans le Nouveau Testament. Et si Dieu agit, c'est pour son peuple, à cause de son peuple. Et au fond, on peut même dire que s'il intervient, c'est pour sa gloire. On peut, par exemple, penser à Apocalypse 19. Apocalypse 19, les versets 1 à 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Louez l'Éternel ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompit la terre par son immoralité. Il a vengé ses serviteurs en lui redemandant son sang. » Donc, on se réjouit parce que le jugement de Dieu est juste. C'est là où c'est compliqué. Parce que tout le monde dit, ah ben, s'il y avait un bon Dieu, pourquoi il permet ceci, pourquoi il permet cela? Mais c'est parce qu'il est lent à la colère. Alors donc, il va intervenir. À ce moment-là, les gens disent, oh là là, Dieu intervient pour punir, Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut que Dieu élimine le mal, soit on veut qu'il soit très tolérant et permette tout le mal. Mais s'il permet le mal, on dit non, il faut que Dieu intervienne. Bon, le raisonnement de ceux qui ne sont pas chrétiens n'est pas toujours très juste. Que Dieu intervienne, ça veut dire que tout le mal, tout le péché, tous ceux qui ont triché, tous ceux qui ont été infidèles à leur conjoint, tout abus sexuel, toute manipulation, toute violence, toute exploitation des autres, tout esclavage, tout le mal, Dieu le voit et va le juger. Et c'est normal. Donc, on n'est pas dans un monde où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Apparemment, un moment, mais pas éternellement. Et la seule issue de cela, c'est de se réfugier dans la grâce de Dieu. Parce que si Dieu intervenait contre le mal, bon, on ferait partie du lot. Donc, heureusement qu'il y a le pardon et la grâce. Donc, finalement, la foule des sauvés crie « Alléluia !» La salut, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Et quand on prie, et j'en ai parlé la semaine dernière, en disant que, dans un sens, je suis revenu au Notre Père, hein, on ne le récite pas très souvent dans nos milieux, mais depuis quelques mois, je le dis tous les soirs, avant de me coucher. Et qu'est-ce que je demande? Que ton règne vienne. Alors que si son règne vienne, ça veut dire qu'il y aura le jugement. Forcément. Ça fait partie. Ça fait partie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce jugement est sans appel. On parle, par exemple, dans ce texte, de la fumée qui s'élève éternellement et que l'on reprend dans l'Apocalypse, d'ailleurs, en citant Ésaïe. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de tribunal d'appel. Dieu juge et on ne peut pas dire « Ah, je vais faire appel ». Il n'y en a pas. Dieu, c'est le tribunal suprême. Voilà, donc, je vais simplement lire le texte sans d'autres commentaires et on va passer au chapitre 35. Pour voir un contraste énorme. Donc, voilà. Attachez vos ceintures. Ésaïe, chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à la destruction et les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées. Leurs cadavres exhalent la puanteur. Les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un livre et tous ses corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. Et la voici qui descend pour frapper Édom, ce peuple que, pour respecter le droit, j'ai voué à la destruction définitive. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, recouverte de graisse. Du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers. Oui, c'est un repas sacrificiel pour l'Éternel qui se déroule à Botsra. Un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, les bœufs avec les taureaux. Leur pays s'enivre de ce sang, et leur poussière est imprégnée de graisse. En effet, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. L'eau des torrents d'Édom sera changée en goudron, et sa poussière en soufre. Son pays deviendra du goudron brûlant, qui ne s'éteindra ni la nuit, ni le jour. Sa fumée s'élèvera éternellement. De génération en génération, il restera désert. Plus jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson en prendront possession. La chouette et le corbeau y habiteront. On y étendra les rubans à mesurer le vide. Et la file à plomb à mesurer le chaos. Ces notables n'y proclameront plus de roi. Tous ces princes auront disparu. Les buissons d'épines pousseront dans ses palais. Les ronces et les orties dans ses forteresses. Sur le domaine des chacals, le repère des autruches. Les bêtes du désert y rencontreront les hyènes et les boucs s'y appelleront l'un à l'autre. Le spectre de la nuit y aura sa résidence, y trouvera son endroit de repos. Le serpent y fera son nid, y déposera ses œufs, les couvera et rassemblera ses petits sous son ombre. Là se rassembleront les vautours, chaque femelle avec son compagnon. Cherchez dans le livre de l'Éternel et disait, aucune de ces bêtes ne sera absente, aucune femelle avec son compagnon ne manquera. Oui, c'est l'Éternel qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Il a procédé un tirage au sort pour eux, sa main leur a partagé ce pays au ruban à mesurer. Ils en prendront possession pour toujours, ils auront leur résidence de génération en génération. Donc, on voit qu'il y a à la fois quelque chose de réel, de concret pour Édom. L'Éternel va mesurer l'espace pour que ces animaux sauvages puissent y habiter. Il va mesurer aussi le vide et le chaos, c'est le même mot tohu-bohu qui existe dans Genèse chapitre 1, verset 1. La terre était informe et vide. Mais en même temps, cette génération en génération, on voit une portée beaucoup plus large que cela, beaucoup plus grande, parce que beaucoup de ces versets sont repris dans l'Apocalypse. Donc ça, c'est le jugement des nations. Et on passe au chapitre 35 et on a un contraste extraordinaire. Donc je vais lire tout de suite tout le chapitre 35. Avant d'en faire quelques commentaires. Ésaïe 35. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts. Les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang. La terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin, qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, car la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ouais, le contraste avec le chapitre 34 est énorme. Heureusement. Ce sont, en fait, la joie des rachetés. Donc, il parle des rachetés au verset 9. Les rachetés de l'Éternel marcheront sur la route. Mais le verset 4 en parle déjà parce qu'il dit que votre Dieu vient lui-même pour vous sauver. Bon. Dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament, ces mots racheter et sauver prennent une dimension énorme. Être racheté de l'esclavage du péché, libéré, parce que le rachat, la rédemption, c'est le même mot, hein, même si en français ça ne se ressemble pas complètement. Rédempteur, rédemption, racheté, rachat, c'est le même mot. C'est l'argent versé pour la libération d'un esclave. Et qui a versé l'argent? Bon, c'est pas de l'argent. Nous ne sommes pas sauvés par l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus, selon 1 Pierre. Donc, nous sommes des rachetés, nous sommes sauvés. Sauvés, ça veut dire quoi? Ça veut dire retirés d'un danger. Une bouée de sauvetage, on lance quand quelqu'un risque de se noyer, être sauvé du danger, la mort. Donc, cette joie, on la retrouve un peu partout. Les versets 1 et 2, avec ce vocabulaire de la délivrance, hein, le terrain sec se réjouiront, il y aurait des narcisses, des fleurs, des chants d'allégresse, des cris de triomphe. Le Liban retrouvera sa splendeur, je suppose, avec tous les cèdres. Le Carmel et le Saron retrouveront leur splendeur. Au verset 5 et 7, avec lequel on a commencé le culte, les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées, le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet lancera des cris joyeux. Et le verset 9, il y aura plus de lions, de bêtes sauvages, ce ne sera pas un repère de chacal, hein, comme c'est marqué. Bon, c'est la joie, c'est la sécurité, parce que nous sommes les rachetés et les sauvés du Seigneur. Alors, il y a trois choses que l'on voit qu'on a raison de cette joie. La première raison, je l'ai déjà mentionné, il viendra lui-même pour sauver, pour nous libérer. Le verset 10 le dit aussi, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ce que Jésus a fait à la croix est tellement riche qu'il faut plein de mots pour cela. On a déjà parlé de sauver, d'être racheté, d'être libéré, d'être justifié, déclaré juste, naître de nouveau, commencer une nouvelle vie. Tout cela, c'est le même événement lorsque quelqu'un place sa foi en Jésus, qui nous accepte tel que nous sommes, pour nous transformer. Nous avons vu ce matin. Mais il nous accepte tel que nous sommes. Et ce vocabulaire est déjà là, sauver, racheter, libérer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir. Parce que s'il fallait que ce soit parce que nous n'avons jamais bu de café de notre vie, ce serait difficile. Hein? Bon, ce n'est pas ça qui sauve. Deuxième chose, on verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. C'est le verset 2. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir. parce que Dieu sera pleinement justifié. Personne ne pourra rien dire. Les bouches seront fermées. Les prophètes le disent et Paul le reprend dans Romains chapitre 3. On pourra bien dire, mais Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là. On verra que c'est parfait, ce sera totalement juste. Il a été fidèle à ses promesses pour ceux qui se confient en lui et fidèle à ses menaces pour ceux qui ne veulent pas de cette compassion, de cette miséricorde, de cette grâce. On verra la gloire et la splendeur de l'Éternel. Et le verset 10, il y aura donc une joie éternelle. Une joie éternelle couronnera leur tête, verset 10. Et c'est une promesse extraordinaire que nous avons la vie éternelle en Christ. Notre vie sur terre est courte, nous avons cette espérance que nous serons auprès de lui pour l'éternité. La vie ne s'arrête pas au tombeau, mais continue auprès de lui pour l'éternité. C'est une raison d'être joyeux, hein? Ils connaîtront donc la gaieté et la joie. Voilà pourquoi le contraste est si énorme. Ce n'est plus le jugement, c'est le salut. Mais, en attendant, le moment où nous serons auprès de lui, de deux choses l'une, soit Jésus reviendra et inaugurera le nouvel âge de salut, soit nous mourrons et nous aurons auprès de lui. On ne sait pas, chacun de nous, lequel on vivra. Mais d'ici là, il y a des promesses pour notre vie d'aujourd'hui. D'abord, versets 3 et 4. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Ce verset d'ailleurs, verset 3, est cité dans Hébreux, chapitre 12, et le verset 12. Hébreux 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. Bon, peut-être on a dit genoux flageolants si on est vieux, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est au sens imagé qu'on n'arrive plus à avancer dans notre marche avec le Seigneur. On a envie de s'arrêter un moment. Non, il faut continuer la marche. Hein. La marche, c'est le chemin ou la voie du Seigneur. C'était le vocabulaire des premiers chrétiens avant que l'on soit affublé du mot chrétien. Avant, on disait ceux qui suivent la voie du Seigneur, on marche avec le Seigneur. Donc, cette marche, à un certain moment, peut perdre le courage et c'est pour cela que l'Épître aux Hébreux cite Ésaïe 35. Et je rappelle d'ailleurs que même au début de ce chapitre 12, on dit que nous sommes dans une course, entourés d'une grande nuée de témoins, donc nous devons courir avec persévérance sur la piste qui est devant nous vers le ruban d'arrivée, en gardant les regards sur Jésus, qui est là et qui nous attend. Donc, le premier encouragement, c'est que les Écritures nous disent, voilà, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. La deuxième chose, c'est que nous sommes, comme je dis, sur un chemin. Et ce chemin, au verset 8, on l'appelle le chemin de la sainteté. C'est le chemin étroit dont part Jésus. Il a parlé du chemin large et du chemin étroit. Le chemin de la sainteté. Et sachant que Dieu est saint, on peut dire que d'abord et surtout, c'est le chemin qui mène à Dieu. C'est le retour à Dieu. Donc, ce chemin, on va le suivre. Aucun impur n'y passera, parce qu'on est sur le chemin seulement si on a reçu le pardon de Dieu. même les fous ne pourront pas s'y égarer. Je ne sais pas dans quelle mesure il veut dire les fous, mais je pense qu'il veut dire ceux qui n'ont pas beaucoup d'instruction, ceux qui peut-être n'ont pas encore acquis la sagesse de Dieu, peut-être qui sont un peu au début de leur marche avec le Seigneur, mais non, ils vont rester sur le chemin. Le Seigneur va nous garder sur ce chemin. Et puis, on a une destination finale au verset 10. C'est Jérusalem. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Donc Sion, c'est Jérusalem. C'est la Jérusalem céleste dont il est question dans Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui se fait belle pour son époux. Et puis après, on dit, elle suivra toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et nous sommes en route vers cette réalité céleste. J'ai toujours été frappé, bon, je fais une petite parenthèse, dans la psychologie jungienne, donc de Jung, il parle d'archétypes. Il dit qu'il y a certains grands thèmes qui reviennent partout, dans toute la pensée humaine, dans toutes les histoires que l'on raconte. J'ai écrit un chapitre du livre que j'ai écrit sur les arts, sur raconter des histoires, et je montre que toutes les histoires du monde ne sont qu'un reflet, en fait, quelque part, de l'Évangile. Toutes les histoires. Parce qu'il y a une difficulté, on se rend compte qu'il y a des problèmes externes, après on se rend compte que le problème n'est pas tellement externe, mais en nous, et on se rend compte de ce défaut, et on revient vers la vraie victoire. Et dans la psychologie jungienne, un des archétypes, c'est le voyage. Et nous sommes en route. Nous sommes pèlerins. Donc il a vu juste. Nous sommes pèlerins qui vont vers la Jérusalem céleste. Et donc nous n'avons pas à avoir peur. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Donc tout cela, c'est le soutien qu'il nous accorde en route. L'enjeu, donc, de ces deux chapitres, l'enjeu est éternel. Et je termine, en fait, avec ce verset dans un des discours de Jésus, dans Matthieu 25. Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voilà, ça c'est le clivage final. La peine éternelle ou la vie éternelle. Donc c'est vrai que ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. En attendant, je pense que nous pouvons vivre avec joie avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que on se lamente en quelque sorte que les gens vont être attirés vers le Seigneur. Ils nous demandent de vivre la paix, la joie, sans nous plaindre. Donc, Tim l'a dit tout à l'heure, sans se plaindre. J'ai souvent dit que le contraire de la joie n'est pas la tristesse, mais de se plaindre. Donc on peut se lever de notre fatigue et poursuivre notre chemin avec cette espérance éternelle d'être auprès du Seigneur.